Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan du jour. On a 41 nouveaux décès, donc un total de 216 décès. Je veux bien sûr offrir mes condoléances à toutes les familles et les proches de ces victimes. On a maintenant 10 912 cas confirmés, une augmentation de 881. On a 679 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 47. On a 196 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 15. Donc, comme vous le voyez, le nombre de décès est important, mais on s'y attendait. C'est en ligne avec les prévisions qui ont été déposées. Puis, il faut se le dire, là, il reste quelques jours avant d'atteindre le pic, le sommet. Donc, malheureusement, on s'attend à ce qu'il y ait encore des augmentations dans les prochains jours. Puis ensuite, ça devrait diminuer. Donc, on est en ligne avec nos prévisions. Par contre, il faut quand même dire les bonnes nouvelles. Quand on regarde les hospitalisations, le nombre de personnes aux soins intensifs, on est exactement en ligne avec nos prévisions qui montrent qu'on approche du sommet. Donc, il y a vraiment une belle stabilisation dans les augmentations du nombre de personnes, autant dans les soins intensifs que dans les hospitalisations. Bon, une chose qui est importante de repréciser, quand on regarde les 216 décès qu'on a jusqu'à présent, 90% des personnes avaient 70 ans et plus et 9% avaient entre 60 et 69 ans. Donc, il y a comme, ça veut dire 99% des décès, là, c'est des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire quand même, d'un côté, c'est rassurant pour les plus jeunes, mais évidemment, ça nous montre là où il faut mettre l'attention, c'est sur les personnes qui sont plus âgées. Bon, je m'inclus là-dedans, moi j'ai 62 ans, par contre, ça, c'est la bonne nouvelle, ce qu'on me dit, dans les personnes qui sont décédées entre 60 et 69 ans, il y avait presque tous des problèmes de maladies chroniques. Donc, ça veut dire que si vous êtes en bonne santé comme moi, entre 60 et 69 ans, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, et c'est là que ça va être important dans les prochaines semaines. Oui, on est en train de regarder pour réouvrir des entreprises. Mais même si les jeunes, les personnes qui vont être dans ces entreprises ne sont pas à risque de conséquences graves, elles peuvent mettre à risque d'autres personnes. Donc, ça va être très important dans les prochaines semaines, les prochains mois, que toutes les personnes qui ont moins que 60 ou 70 ans fassent très attention de ne pas s'approcher de nos aînés. Donc, c'est ça là, qu'il faut se mettre là, dans la tête, tout le monde, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Les personnes qui sont vulnérables, ce sont les personnes plus âgées. Donc, ils n'ont pas plus de chances ou moins de chances que les autres d'être infectées, mais ils ont plus de chances, si elles sont infectées, d'avoir des conséquences graves, comme de décéder. Donc, il faut être très, très prudent, je le répéterai jamais assez, mais il faut continuer de se le dire, là. Il faut que les personnes plus âgées restent chez elles, puis malheureusement, il ne faut pas aller les visiter, il ne faut pas s'approcher de ces personnes à moins que 2 mètres et puis de ne pas rester longtemps en leur présence. Bon, évidemment, ça c'est pour les personnes qui sont dans des maisons. Je reviens sur les résidences puis les CHSLD. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de la situation dans les CHSLD. Mais je veux, puis j'ai posé beaucoup de questions depuis quelques jours, autant à l'équipe de Daniel qu'à l'équipe du docteur Arruda. Puis ce qu'on voit, c'est que le problème est vraiment dans quelques CHSLD. On a 6 CHSLD là, où on a la majorité des décès. Puis c'est là qu'il y a une situation critique. Donc, ça veut dire, c'est important de les nommer. Là. Puis, je sais qu'on a fait attention de ne pas les nommer, mais on les voit pas mal dans les médias, donc c'est important. J'ai fait le choix de les nommer aujourd'hui. Donc, il y a le CHSLD de Sainte-Dorothée à Laval. Il y a le Centre d'hébergement Notre-Dame de la Merci à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement La Salle, à La Salle ou à Montréal. Il y a le Centre d'hébergement Alfred Desrochers à Montréal. Il y a le CHSLD La Flèche en Mauricie, je me souviens bien, à Shawinigan ou Grand-Mère. Puis il y a le CHSLD Lapinière à Laval. Donc c'est là qu'on a la majorité des décès. C'est là qu'est la situation critique. C'est là qu'on travaille fort. Mais on prévient aussi aux autres endroits. Donc, Daniel s'est assuré, juste au cours des derniers jours, dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins, puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Donc, on fait vraiment des gros efforts pour se concentrer là, parce que c'est là que ça va jouer, puis que ça se joue actuellement. Bon, peut-être certaines précisions. D'abord, il y a des règles très claires, là. Tout le personnel dans les CHSLD, quand il s'approche à 2 mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Donc, c'est clair, là, quand la directive est claire, quand le personnel s'approche d'un patient à moins que 2 mètres, toujours doit porter le masque. L'autre chose qui est importante aussi de dire, parce qu'il faut comme rassurer la famille qui a des résidents, résidentes qui ne sont pas dans les 6 CHSLD critiques, quand il y a un cas de COVID-19, les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée, là. Il faut que les familles soient appelées. Donc, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas de COVID-19. Bon, l'autre chose, bonne nouvelle aujourd'hui, vous savez, on avait déjà annoncé pour les centres d'hébergement privés. Là, il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas des gros salaires. On avait déjà annoncé qu'on donnait une augmentation de 4 $ de l'heure payée par le gouvernement aux préposés aux bénéficiaires. On avait annoncé aussi dans tout le réseau public une augmentation de 8% pour les infirmières et infirmières auxiliaires, puis de 4% pour le reste du personnel. À partir d'aujourd'hui, puis rétroactif au 13 mars, il va y avoir la même prime dans les résidences privées. Donc, ça veut dire les infirmières auxiliaires dans les CHSLD privés, puis dans les résidences privées, vont avoir 8%, les autres employés 4%, puis on garde la prime de 4 $ de l'heure, qui est quand même importante là, pour des gens qui gagnaient seulement 13, 14, 15 $ de l'heure. Ça reste tout en place. Donc, évidemment, je pense que ce sont des primes qui sont plus que méritées par le personnel de ces résidences privées. Puis on veut en même temps les remercier. Parlant de remerciements, mes remerciements du jour, je vais peut-être être un peu différent aujourd'hui. Plutôt que de faire des remerciements, je veux rendre hommage à nos aînés. On a une espèce de devoir de mémoire à l'égard de nos aînés. Nos aînés ont bâti le Québec. Nos aînés ont passé à travers des épreuves. Nos aînés nous lèguent une société qui est plus juste, plus riche, plus belle, et on a un devoir de les protéger. Donc, je veux que ça devienne la priorité de tous les Québécois, toutes les Québécoises, protéger nos aînés. On leur doit ça. Puis je veux en profiter pour, évidemment, saluer les aînés. Je sais que vous vivez une situation qui est difficile. Il y en a plusieurs qui sont seuls à la maison. Puis là, ben, on leur annonce pas nécessairement des bonnes nouvelles en disant que ça va durer plus longtemps pour nos aînés, ce confinement. Donc, je vous dis merci, puis je vous dis qu'on est avec vous. En terminant, je veux vous dire que samedi, comme d'habitude, la vice-première ministre va me remplacer, puis dimanche, on va faire relâche. Donc, étant donné que on espère que la crise va s'atténuer, on commence à prendre quelques journées là, pour revenir un peu aussi à la normale. Mais je termine en revenant sur la consigne là, la plus importante, selon moi, faire attention à nos aînés. Je le sais, en fin de semaine, c'est Pâques, là. Faut pas aller visiter nos parents, nos grands-parents. Faites comme moi, là. J'irai pas voir ma mère dimanche à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais je vais l'appeler. Donc, maman, je t'appelle. Et j'invite tout le monde à faire ça avec vos parents, vos grands-parents. Vous n'allez pas y voir en fin de semaine, mais vous les appelez. Merci.
Maintenant, quelques mots en anglais.
OK. En attendant les questions des journalistes, donc, une augmentation de nos décès, malheureusement, 41 nouveaux décès. Hein?
Pour un total de 216. En effet. On parle de 196 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 15. On a à nouveau parlé des personnes âgées. Hein. C'est là beaucoup, que ça se passe. Beaucoup, 90 % des décès, c'est des gens âgés de 70 ans et plus. Mm-hmm. Il y a 9 % des décès, c'est des gens âgés entre 60 et 69 ans.
Ouais.
Donc, on parle de 99 % dans le fond des décès là, qui sont des gens entre 60 et...
Enfin, au-dessus de 60 ans.
Au-dessus de 60 ans,
exactement,
voilà.
Exactement.
On a parlé aussi de CHSLD. Là, il y en a 6. Hein. Le problème est concentré dans 6 CHSLD.
Ouais.
On parle de Sainte-Dorothée à Laval, Notre-Dame-de-la-Merci à Montréal, le CHSLD La Salle à Montréal, Alfred-Desrochers à Montréal, le centre La Flèche en Mauricie et Lapinière à Laval.
À Laval. Question.
Martin, TVA Nouvelles.
Oui, bonjour à vous trois. Je sais que le nombre de décès dans les CHSLD vous préoccupe. Je pense que ça préoccupe l'ensemble des Québécois également. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée sur le nombre de décès concrètement là, dans les CHSLD versus dans les hôpitaux, s'il vous plaît?
Écoutez, dans les CHSLD, actuellement, on en a 106 qui ont été rapportés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui étaient originellement dans CHSLD, une proportion est allée à l'hôpital. Je trouve que c'est bien important de comprendre. Ce qu'on classifie ici, c'est l'origine des personnes. Ce n'est pas toutes les personnes en CHSLD qui vont nécessairement à l'hôpital, mais celles qui, il y en a quelques-uns qui y vont. Donc, 49 % des gens proviennent du milieu des CHSLD. Après ça, il y en a 22 % qui proviennent directement du domicile, 22 % des résidences pour personnes âgées, et puis il y en a 2 % qui étaient en CH directement. Il y a 5 % qui est inconnu. Donc, c'est encore dans le milieu de CHSLD où on a le maximum de personnes décédées, parce que c'est là aussi où se retrouvent les personnes les plus malades comme telles, qui ont des maladies chroniques de façon importante et d'autres types de maladies.
Pourquoi, à ce compte-là, les proches peuvent-ils encore aller visiter leurs personnes proches dans les CHSLD? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire parce que pour des motifs humanitaires, je crois que c'est encore permis à certains endroits? Pourquoi ne pas les avoir interdits plus tôt dans votre stratégie?
Bien, je veux juste dire qu'on très tôt, on interdit les visites dans les centres de personnes âgées. On fait une exception pour les personnes qui vont mourir, donc qui sont en fin de vie. Je pense que ce serait pas humain de dire à un enfant, vous pouvez pas une dernière fois voir votre père ou votre mère. Là. Donc, on prend les précautions nécessaires, mais je pense que c'est tout simplement une question humaine.
Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda, est-ce que c'est possible d'avoir des précisions sur les six centres de personnes âgées que vous avez nommés, à savoir combien il y a de décès dans ces... parce que vous dites que ce sont les endroits critiques, là. Combien il y a de décès dans ces établissements-là? Combien de gens ont testé positif? Est-ce que vous avez des données en ce sens-là?
Oui. CHSLD Sainte-Dorothée, 16. Notre-Dame de la... Des décès, oui. Notre-Dame de la Merci, 13. La Salle, 7. Alfred Desrochers, 5. La Flèche, 20. Et La Pinière, 10.
Oui, excusez-moi, je prends des... hier, vous avez créé une espèce de mouvement d'optimisme dans l'industrie de la construction, M. Legault, en ce sens que vous avez dit, bien, peut-être qu'on pourrait rouvrir en gardant certaines mesures de distanciation. On me dit qu'il y a des entreprises de construction qui ont été submergées hier d'appels de clients, etc. Est-ce que vous pouvez être plus précis, d'une part, sur le moment où vous comptez permettre l'ouverture de cette industrie-là, que vous avez déjà qualifiée d'essentielle pour le support économique de l'économie québécoise? Oui.
Bien, écoutez, là, on prévoit dans les prochains jours atteindre le pic, là. Donc, il faut s'assurer que ça soit vrai, donc que les chiffres se maintiennent. Ça fait quelques jours que les chiffres d'hospitalisation se maintiennent. Bon, j'aurais dû commencer par dire « j'ai besoin du OK du docteur Arruda ». Donc, je travaille fort là-dessus. Mais c'est pour ça aujourd'hui que je disais 99 % des décès sont chez des personnes de 60 ans et plus. Donc, que des gens plus jeunes aillent travailler dans le secteur de la construction, s'ils ne vont pas proches des personnes de 60 ans et plus, je pense que les risques sont limités. Donc, évidemment, on va suivre dans les prochains jours l'évolution des données, continuer à avoir des discussions, mais je pense qu'il faut quand même commencer à penser à ce que, on voit les chiffres de chômage, là, les centaines de milliers de Québécois qui sont en problème financier, que s'il n'y a pas trop de risques d'être capable de réouvrir, rester à 2 mètres. C'est ce qu'on va suivre dans les prochains jours. Puis là, on va se donner un plan. Au début, on va se concentrer sur les entreprises où les personnes sont capables de rester à 2 mètres.
Prochaine question, Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal.
Bonjour. Donc, vous venez d'en parler. On semble comprendre que le déconfinement que vous prévoyez est notamment ciblé en fonction des personnes plus à risque. Donc, les aînés pourraient être confinés plus longtemps. Est-ce que, aussi, vous envisagez un déconfinement plus régional?
Bien, beaucoup discuté de ça. Hein, je commence à être spécialiste en santé publique. Là. J'ai posé la question, étant donné que Montréal est peut-être déjà au pic, est-ce qu'on commence par Montréal ou on commence par les régions? Ils m'ont dit que c'est une très bonne question. C'était la première réponse. Mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné qu'il y a plus de cas à Montréal, même si on commence à être sur la pente descendante, on va peut-être avoir plus de cas que ceux qui n'ont pas encore atteint le pic dans certaines régions. Donc, il y a encore un besoin d'avoir plus de données pour répondre à cette question-là. C'est ça que j'ai compris.
Est-ce que vous avez quelque chose?
Mais si vous me permettez, oui, votre question est pertinente. On se la pose à chaque jour, mais je voudrais vous dire une chose. C'est sûr qu'en tant que directeur national de santé publique, je suis aussi préoccupé par les déterminants de santé qui font qu'un peuple est en santé, dont l'économie, le travail, etc. Mais il faut faire attention. Autant on a pesé sur un interrupteur rapide de faire une cessation immédiate, décision très courageuse de notre premier ministre, autant la reprise doit être progressive avec un thermostat ou un rhéostat de lumière, parce que le danger, parce que c'est pas tout le monde qui a été infecté, si tout le monde commence à ressortir comme tel partout, c'est d'avoir un autre pic. Un pic qu'on aurait évité et aplati dans un premier temps et qui reviendrait. Et puis aussi à avoir des deuxièmes phases. On se souvient du SRAS à Toronto, qui avait créé d'ailleurs l'Agence de santé publique du Canada. Le gouvernement s'est fait reprocher, d'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et ce n'est pas une question politique. Les gens de santé publique même ont été questionnés là-dessus. C'est qu'on avait pensé, tout était rentré dans l'ordre. Et puis, c'est revenu avec un pic très, très effroyable. Et ça, l'OMS toutes les organisations internationales nous disent de faire attention à ça. Okay? Et je tiens à vous dire aussi que les autres pays qui ont l'épidémie bien avant nous comme tel sont en train de commencer à réouvrir, mais personne ne va d'une switch de off à on. Et il faut surveiller. Il y a des conditions précises de surveillance de milieu. Puis on va bien entendu réouvrir les chantiers ou les domaines qui sont essentiels au fonctionnement et qui vont aller, je vous dirais, avec des respects de certaines conditions. Donc, il ne faut pas interpréter la réouverture de l'économie ou de certains secteurs comme étant « on y va, on revient exactement comme avant ». Ça, ce serait dangereux. Et d'ailleurs, il y a des secteurs où il y a du télétravail qui va se faire, des tours à bureau, etc. Et on n'ira pas prendre les chances parce que c'est impossible, à moins que vous, quelqu'un me le garantisse, qu'il n'y ait pas de contact avec aucune des personnes âgées. C'est impossible. Plus on va être en confinement, plus les gens vont être fatigués, ils vont vouloir relâcher. Mais j'invite les Québécois, les Québécoises qui ont été extraordinaires jusqu'à maintenant à comprendre ce message-là. En fin de semaine de Pâques, il ne faut pas faire de rassemblement. Le PM l'a dit régulièrement, mais on va réouvrir. On veut redonner de l'espoir. La lumière s'en vient au bout du tunnel, mais on va faire une analyse secteur par secteur, région par région, puis on va faire des recommandations à notre premier ministre qui prendra les décisions nécessaires.
Vous avez donc parlé du 2 mètres de distanciation pour les professions. Donc, vous allez prioriser les professions qui vont être capables de mettre leurs employés à 2 mètres. Qu'adviendra-t-il des professions qui impliquent un rapprochement physique? Je pense aux coiffeurs, aux esthéticiennes, aux physiothérapeutes, par exemple.
Bien, évidemment, c'est plus difficile. Si on veut garder 2 mètres, puis on est coiffeur, coiffeuse, c'est pas mal difficile. Donc, ça veut dire que ça va venir plus tard. Mais bon, l'autre critère qui est important aussi, c'est quel âge a la personne qui coiffe, quel âge ont les clients. Et je reviens au fait que 99 % des décès sont chez des personnes qui ont 60 ans et plus. Donc, ça veut dire que, je pense entre autres aux enfants dans les écoles, les garderies, oui, il y a des risques qu'ils soient infectés, mais les risques et des conséquences graves sont très faibles.
Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
Bonjour à vous. J'aimerais faire un suivi sur la question que je vous ai posée hier, Mme McCann particulièrement. Vous savez, ça concernait le non-respect des protocoles sanitaires de résidences privées pour personnes âgées et pour le personnel des CIS et des CIUS qui vont faire des soins à domicile. Je vais vous lire ce qui a été communiqué par un CIUS, pour ne pas le nommer, concernant, voici, je le mets en guillemets, concernant ce qui est dit en conférence de presse par le premier ministre ou un ministre, il faut être prudent avec ces informations. Nous travaillons uniquement avec les communiqués officiels qui vous sont envoyés par le CIUS. Donc, il faut être prudent avec les informations que vous nous donnez ou est-ce que vos informations ou les lignes directrices que vous donnez ne se rendent pas dans les CIUS concernant le respect des protocoles sanitaires dans les résidences personnes âgées?
Bien, j'ai justement eu l'occasion d'en parler avec les PDG aujourd'hui, il y a une couple d'heures. Et on s'est rappelé, évidemment, que les résidences personnes âgées là, prennent des mesures importantes pour protéger leur clientèle et on doit les respecter. Alors, c'est ce qui a été dit au PDG et je pense qu'il faut que ça soit appliqué sur le terrain. Donc, quand on arrive dans une résidence personnes âgées autonome, on suit le protocole qui a été mis en place par la résidence, qui est très sécuritaire. Et on suit ce protocole dans toutes les régions du Québec. C'est important. Ce sont des partenaires importants et c'est une clientèle très importante. Les gens qui résident dans... Et je vais plus loin. On a donné un budget pour augmenter les ressources. On veut que les CIS et les CIUS aident les résidences personnes âgées autonomes à embaucher du personnel. On veut aussi qu'ils leur rendent disponible une infirmière qui va voir à ce que toute la question de la prévention des infections soit respectée. Alors, on travaille beaucoup avec eux et ça va s'intensifier.
En complémentaire, si vous permettez, je vais prendre un exemple qui m'a été donné par un gestionnaire qui, notamment des 1000 résidents sous sa responsabilité dans la région de Lanaudière. Et bon, comme c'est courant habituellement, il y a une ambulance qui se présente par jour, c'est statistique moyenne. Ces gens-là sont souvent hospitalisés pour des problèmes de santé et reviennent par la suite dans leur résidence. Et des fois, le CIS informe une semaine après que cette personne-là était en contact avec des gens qui étaient contaminés, du personnel de santé qui était contaminé. Et des professionnels ou des gestionnaires demandent à ce qu'il y ait une zone tampon pour pas que les gens soient pas réintégrés comme ça dans la résidence personne âgée. Est-ce que ça serait possible, par exemple, d'envoyer ces personnes-là pour 14 jours à l'hôtel le temps que des tests soient faits, par exemple?
Bien, je vais vous dire, là, puis Dr Arruda voudra peut-être compléter, qu'il y a des directives là, qui sont actuelles, là, où est-ce qu'on dit pour le dépistage que pour les gens qui retournent en milieu de vie, que ce soit un CHSLD, une RPA ou une RIRTF, il faut qu'ils soient testés et qu'ils soient négatifs avant de réintégrer ces milieux de vie. Ça, c'est un premier critère là, de dépistage qu'on se donne maintenant pour éviter justement la contagion. Et ce qu'on dit également, c'est qu'on va dépister tous les résidents et tout le personnel dans les CHSLD ou les milieux de vie qui ont un cas confirmé. On en a plusieurs, là, au Québec. Alors, tous les résidents, tout le personnel vont être dépistés. Et s'il y a d'autres indications que la santé publique nous donne, bien, on va faire le dépistage. Alors, tout ça est implanté maintenant et ce sont les règles qu'on se donne pour éviter la propagation dans les milieux de vie des personnes âgées.
Ça vous va? Donc, Marie-Michèle Sioui, Le Devoir.
Bonjour à tous. Justin Trudeau a dit plus tôt aujourd'hui qu'on ne verra pas de retour à la normale avant l'arrivée d'un vaccin. Lui a estimé ça à un an et demi. Au début de la crise, M. Legault, vous nous aviez parlé des frontières. J'aimerais que vous nous en parliez à nouveau aujourd'hui. Avez-vous l'intention de demander que les frontières restent fermées pour cette période-là pour éviter que des voyageurs rapportent le virus?
Bien, on n'est pas encore rendu à l'étape là, de réouvrir. Est-ce qu'on le sera? Puis quand? Les questions vont se poser au fur et à mesure. Mais c'est certain, comme je le disais hier, la vie normale où on peut embrasser sa grand-mère ou sa mère, là, c'est pas pour demain. Ça va prendre des mois. Mais la question des frontières, bien, ça va faire partie des sujets qui seront discutés dans les prochaines semaines, les prochains mois, puis je vais demander l'avis de la santé publique.
Voilà donc ce point de presse qui se poursuit. Julie-Christine Gagnon, beaucoup évidemment de questions sur les aînés. Là, il y a un communiqué qui a été émis par le ministère de la Santé concernant justement le transfert des personnes hébergées en CHSLD vers les centres hospitaliers. On vient tout juste de me l'apporter, fait que je vais en prendre connaissance pendant la pause, puis je vais vous le rapporter tout de suite après la pause. Donc, tu continues à suivre ça pour nous, Julie-Christine?
Oui, et j'aimerais corriger. J'ai fait une petite erreur tantôt. Là, on parle de plus de 5 millions de Canadiens qui ont demandé l'aide du gouvernement et non pas 500 millions. C'est déjà beaucoup, 5 millions.
Merci. À demain. Désolée. Il n'y a pas de problème. À demain. Ça nous arrive. Ça m'arrive aussi. Qu'est-ce que tu veux? La radio en direct, des fois, on fait des petits faux pas comme ça, puis il n'y a vraiment rien de grave. Julie-Christine, va en paix.
D'accord. À demain.
À demain. Dans un instant, l'analyse de Luc Lavoie de ce point de presse, et on va prendre les commentaires de Gaëtan Barrette, hein, qui va venir donc nous rejoindre dans l'émission après la pause.